Nous sommes en conversation avec Michel Heller. Bonjour Michel.
Bonjour.
Il y a quelques années, vous avez écrit un livre, Les psychothérapies corporelles.
Mmh.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Alors, en fait, c'est une demande d'éditeur, donc des éditions de Beck, qui était en discussion avec une collègue qui s'appelle Claire Colliard. Et en discutant ensemble, ils se sont dit que ce serait une bonne idée de me demander d'écrire un livre sur les psychothérapies corporelles en tant que champ général, dans la mesure où la plupart des livres existants représentent surtout une école.
Mm-hmm.
Donc j'ai eu cette demande d'écrire quelque chose sur la globalité du champ plutôt que sur une approche particulière.
Oui, donc, l'intérêt sur cette globalité du champ dans un univers francophone, mmh. c'est quelque chose qui est quand même un peu étonnant dans la mesure où les psychologies corporelles ne sont pas aussi présentes dans l'univers francophone qu'elles le sont par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays.
Les psychothérapies corporelles ont eu une mode, si j'ose dire, dans les années 70. On en parlait beaucoup dans la presse, il y avait beaucoup de groupes et de formations qui avaient eu lieu en France. Et puis, il y a eu un cap qu'elles n'ont pas pu passer, c'était l'exigence qui est venue dans les années 80-90 de créer des psychothérapies qui soient reconnues, appuyées par de la recherche qui confirmait ces résultats. Et là, en France, quelque part, la recherche qui était très reliée, la psychothérapie corporelle qui était très reliée à la spiritualité, à une sorte de recherche humaniste post-68 art, un travail sur soi plutôt qu'un travail sur la psychopathologie, a calé.
Mm-hmm.
Quelque part, elle n'a pas passé ce cap, ou peu ont passé ce cap. Il y a quelques écoles, comme l'école de psychologie biodynamique à Montpellier, qui persévère, ou l'école de Claude Vaux, par exemple, mais elles sont peu nombreuses.
Oui.
Alors que ce qui est bizarre, c'est que c'est dans un sens, nous, formateurs formés en France, qui avons souvent formé des gens en Allemagne dans les années 80, et à partir de là, pas seulement à cause des Français, mais aussi des Anglais, des Américains, mais notamment à cause des Français, que le développement de la discipline a vraiment fleuri en Allemagne, en Suisse alémanique, en Autriche. Et maintenant, c'est un courant qui est extrêmement puissant dans les pays germaniques et très faible en France.
Donc, dans ce contexte, vous avez en fait l'occasion, avec un ouvrage de ce genre, mmh. De donner un contexte, un cadre, une orientation aux psychothérapies corporelles.
Voilà.
Comment vous abordez ça dans votre ouvrage?
Le premier problème qu'il fallait résoudre, c'était le problème de Wilhelm Reich. Comme vous savez, on dit que c'est Wilhelm Reich qui a créé les psychothérapies corporelles,
mm-hmm.
que donc toutes les psychothérapies corporelles sont reichiennes uniquement, et que donc c'est plus un manifeste idéologique qu'une psychothérapie dans le sens dont on parle dans les milieux de la psychologie clinique.
Oui.
Alors, ce qu'il a fallu démontrer dans le livre, ce qui est assez facile à démontrer en fait, c'est qu'un, Reich était lui-même un psychanalyste proéminent, que c'était pas juste une sorte de gourou qui venait de nulle part, et deuxièmement, que même en psychanalyse, il y avait dans les années 30 énormément de gens qui pensaient à la psychothérapie corporelle, et que Reich a été un peu l'arbre qui a caché toute une forêt de gens extrêmement appréciés, par exemple des gens comme Otto Fenichel, Ferenczi, Grodeck, et aussi il y a certains Jungiens qui étaient très intéressés par les psychothérapies corporelles. Il y avait dans les années 30, il y avait des immenses congrès en Allemagne sur l'utilisation du corps en psychiatrie et en psychothérapie. C'était donc un thème qui dépassait de très loin le folklore reichien des années 70, enfin 70 en français.
Oui.
Voilà.
Et alors, en fait aussi, les approches plus nouvelles de ces 10-20 dernières années ne sont pas forcément aussi orientées par la pensée de Reich.
Non, il y a premièrement, par exemple, en France, une technique qui est très appréciée, c'est ce qu'on appelle la méthode de relaxation à Jouy-Aguerra.
Mm-hmm.
On psychanalyse et corps. Il n'y a que des psychanalystes qui peuvent utiliser cette méthode. Il y a pas mal de méthodes qui viennent de la Gestalt. La Gestalt, il ne faut pas oublier que Fritz Perls et Madame Perls aussi étaient tous les deux élèves d'Otto Fenichel et de Reich dans les années 30. Mmh. Ils avaient tous les deux travaillé avec une gymnaste extrêmement connue à l'époque qui s'appelait Elsa Gindler, qui a fortement influencé Reich, Fenichel, Fritz Perls, et énormément d'élèves d'Elsa Gindler sont allés en Californie rejoindre Fritz Perls, ce qui fait qu'il y a énormément de techniques psychocorporelles autour de la Gestalt qui ne viennent absolument pas de Reich, tout en connaissant le travail de Reich. Mmh, mmh. Puis ensuite, bon, il y a les approches psychanalytiques, il y a les Bovici, il y a toute une série de gens qui travaillaient quand même avec le corps, mais surtout en l'infantilisant, c'est-à-dire il n'y a que chez l'enfant que le corps est intéressant ou interpellant, parce qu'il vient avant la parole. Ils ont du mal, les psychanalystes, à parler d'un corps adulte, d'un corps de danseur, du corps de l'orgasme, de l'interaction sexuelle. Très vite, c'est le préverbal, l'aspect archaïque de l'être qui est corporel. Et si on veut atteindre la partie plus adulte, plus responsable, c'est forcément par le verbal qu'il faut y aller. Alors nous, on montre bien, et par exemple les thérapies basées sur la danse le montrent bien aussi, qu'avec le mouvement, avec le corps, on peut faire des recherches même intellectuelles, artistiques, spirituelles, mais aussi vous pensez à des disciplines comme le yoga, comme le tai chi, il y a toute une panoplie d'approches qui montrent que par la psyché se manifeste par le corps et peut être atteinte par les gestes corporels. Mmh. Il y a aussi des nouvelles théories dans les neurosciences qui montrent exactement la même chose. Il y a les notions d'embodiment qui sont venues des États-Unis, mais de gens comme Jérôme Brunner à Harvard University. Il y a énormément de courants scientifiques, cognitifs, qui aujourd'hui réinstaurent, disons, la nécessité de comprendre comment corps et psyché se combinent, s'associent et s'influencent mutuellement.
Donc, ces différents courants, ces différentes approches, est-ce que vous diriez qu'il y a, c'est pas quelque chose de léger, quelque chose qui flotte, des mystiques, mais il y a quand même des fondations théoriques derrière ces approches.
Ben, je dirais qu'aujourd'hui, si on regarde l'ensemble de la recherche en psychologie, il est presque impossible d'éviter le corps pour comprendre l'esprit. Mmh. C'était déjà, d'ailleurs, la théorie de Descartes sur laquelle souvent on dit mais ce monsieur avait complètement séparé l'âme et le corps, mais c'est Descartes qui rappelait que si les pensées ne s'allient pas aux passions, elles ne peuvent pas bouger le corps. Mm-hmm. C'est le corps qui, c'est les passions qui bougent le corps bouge les passions, et donc si la pensée veut arriver à faire bouger une main ou un pied, elle est obligée d'associer une pensée à une passion. C'est le traité des passions de Descartes que les gens ont en général pas lu. Et donc il y a eu l'erreur de Descartes publiée par Damasio. Mm-hmm. Et on peut dire qu'en fait ce livre est un merveilleux livre sur l'erreur de Damasio et pas sur l'erreur de Descartes.
Oui, donc de revendiquer pour Descartes comme le prophète de l'embodiment.
Oui. Et ça l'était, si on le relit, c'est un très beau livre là-dessus.
Mmh. Oui. Très bien, donc nous pouvons nous recommander de Descartes.
De Descartes, de Spinoza, qui lui aussi a énormément traité de la question. Il y a d'ailleurs des livres sur corps et psyché chez Spinoza. Il y a Hume qui a parlé de ça. Donc, dans la philosophie, il y a beaucoup de gens. Il y a toute la théorie de l'évolution qui montre que plus l'organisme est devenu complexe, plus il a dû intégrer le système nerveux, développer le système nerveux, puis finalement développer une psyché pour créer le mode d'adaptation des humains. Et ce qui est intéressant avec la théorie de l'évolution pour le psychologue, c'est que jusqu'à Lamarck, parce que c'est quand même lui qui a vraiment créé cette théorie, c'est pas Darwin, jusqu'à Lamarck, le grand dilemme des philosophes, genre Descartes, Hume et compagnie, c'est comment ça se fait qu'on perçoit les choses telles qu'elles sont, de manière approximative seulement. Mm. c'est-à-dire où Dieu a créé un lien direct entre l'âme et la réalité, et dans ce cas-là, ce lien devrait être parfait, où Dieu a créé une scission entre l'âme et le corps, et à ce moment-là, tous les délires sont possibles, ce que décrit très bien Descartes quand il dit « peut-être c'est un monstre en moi qui pense, peut-être la réalité que je perçois n'est qu'un rêve, etc. » Il y avait ce dilemme chez les philosophes qu'ils n'arrivaient pas à expliquer qu'on ait une vision approximative des choses. Et avec la théorie de l'évolution, la réponse est tombée presque en un jour, en 1802, dans le premier ouvrage de Lamarck, qui montre que tout ça se fabrique, est en processus de fabrication d'une espèce à l'autre, et que le travail, manifestement, n'est pas achevé. Et ça, c'est quand même... ces théories montrent bien en quoi il est impossible de séparer le développement de la psyché du développement du corps, oui, ou de l'organisme.
Donc en fait, ce que vous faites, c'est de mettre les psychothérapies corporelles dans un framework, un cadre qui est plus large et qui revient en fait de ce que depuis près de 200 ans, de situer l'être humain dans le contexte d'une évolution, de telle sorte que l'aspect biologique de l'être humain et l'aspect biologique de penser et d'agir fait partie de ce contexte.
Voilà. Tout à fait. Donc il faut aussi peut-être mettre le contexte social là-dedans maintenant. Oui. L'évolution des espèces a créé une évolution des sociétés. Donc plus on évolue déjà au niveau de la fourmi, des abeilles, enfin de toutes sortes d'espèces, on a vu qu'il y a une évolution de comment l'individu est capable de s'insérer dans des dynamiques sociales et comment ces dynamiques sociales peuvent incorporer, si j'ose dire, des individus. Et si on veut regarder si on fait de la psychothérapie, en fait, on travaille sur cette dynamique incroyablement complexe. On doit tenir compte du fait qu'il y a un rapport entre la psyché et le corps, mais aussi entre les gestes et les gestes de l'un et les gestes de l'autre. Et puis il y a le contexte social. Si quelqu'un déprime parce qu'il est au chômage, c'est pas un problème psy direct, c'est un problème social parce que l'homme a été créé pour devoir travailler. De même que l'être humain supporte mal de pas faire l'amour, il supporte mal de pas travailler. Donc dès qu'on voit les pulsions comme quelque chose qui relie l'homme et son milieu social, on voit très vite que c'est pas seulement la psyché et le corps qui est interpellé dans un travail psychothérapeutique, mais la psyché qui par le corps arrive à la société et qui par le corps est influencée par la société.
Oui, donc on est en fait un champ, c'est dans un champ plus large.
Voilà.
Et ce qu'on appelle psychologie, psychothérapie, ça agit sur une partie de ce champ, c'est un éclairage d'une partie du champ, mais voilà. C'est une erreur de ne considérer que ce qu'on voit dans cet éclairage au lieu de faire attention à l'ensemble du champ.
Voilà. La meilleure défense théorique, je crois, du travail psychocorporel, de la psychothérapie psychocorporelle, c'est Marcel Mauss qui l'avait donné dans un très beau petit article sur les techniques du corps. Il analyse la natation, la marche, des choses comme ça. Et il montrait que la psyché est un rouage nécessaire au fonctionnement de l'organisme quand il marche ou quand il nage. C'est-à-dire, les gens nagent différemment dans différentes cultures. Il y a des champions de natation qui ont un style particulier, qui leur est particulier. Et là-dedans, on dit toujours qu'il faut travailler le moral, enfin, etc. Donc la psyché est un rouage nécessaire de l'organisme. Et donc si on est psychothérapeute, parce que ce qui est important, c'est pas de faire du travail corporel, mais là je parle quand même de psychothérapie, on peut pas travailler sur ce rouage qu'est la psyché si on se rend pas compte de comment il s'engrange avec les autres rouages de la machine, ou du circuit dans lequel il s'inclut. Oui. Et ça, c'est, je crois, la spécificité de notre travail.
Non, j'aime beaucoup cette image et aussi l'idée que vous décrivez la psyché comme un rouage, alors qu'on a souvent tendance à considérer que la psyché est l'individu. Donc, si on le met dans le contexte de cette machine, de cet organisme dans lequel la psyché est un rouage qui s'enclenche avec les autres et c'est l'ensemble qui fonctionne, je crois que cette image est très, très parlante.
Alors ça, c'est quand même, je crois, une des grandes contributions de Reich, parce qu'il faut quand même en parler un peu.
Oui.
Quand il a été renvoyé de la psychanalyse, lui, il a tourné le dos à la psychothérapie, point final. Donc quand il a créé la végétothérapie et l'ergonomie, qui sont les deux principales méthodes reichiennes post-psychanalytiques, c'était manifestement pas des psychothérapies corporelles.
Mm-hmm.
C'était une thérapie de l'organisme en tant qu'entité, des grands régulateurs de l'organisme, et la psyché n'était intéressante que dans la mesure où elle en était le rouage. Et il montre bien que, qu'il y a énormément de mécanismes qui passent par la psyché, mais dont la psyché n'a pas forcément la capacité d'en être conscient.
Mmh.
Lamarck avait cette belle formule qu'a reprise d'ailleurs Lacan, qui est que toutes nos pulsions fonctionnent à notre insu.
Mmh.
Elles font venir en nous des pensées, elles font venir des actes, sans que la pensée sache pourquoi ces actes viennent, sans que les actes soient forcément coordonnés à nos pensées. Il y a toute une dynamique de l'organisme qui dépasse de très loin ce que la psyché consciente peut comprendre. Et ça, c'est pas que de l'inconscient dans le sens freudien du terme, c'est vraiment toute une dynamique de l'organisme qui dépasse la simple notion de choses qui ont été conscientes et qui sont refoulées.
Mmh. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas être conscientes.
Qui ne peuvent pas. Et aujourd'hui, les psychologues qui ont dû se libérer des psychanalystes qui étaient là, une vraie plaie, c'est-à-dire chaque fois qu'on parlait de l'inconscient, ils nous disaient « mais c'est pas notre inconscient, ce que vous dites est faux ». Alors pour avoir la paix, les psychanalystes ont pris un mot comme le non-conscient. Par exemple, Paul Fraisse en France, qui était à la Sorbonne jusque dans les années 70, il dit « moi j'utilise le mot non-conscient, comme ça les psychanalystes arrêtent de m'embêter chaque fois que je parle de choses qui ne peuvent pas être comprises par la conscience
mm-hmm. ». Oui, oui.
Alors moi je parle beaucoup de non-conscient dans mon livre, tout en admettant qu'il existe des phénomènes inconscients dans le sens freudien du terme. C'est pour moi des phénomènes importants, mais sans plus.
Mm-hmm.
Et ça, je crois que c'est un des grands apports de Reich, c'est d'avoir donné une force à ce non-conscient qui est aussi psychique.
Oui. Mmh. Dans ce livre, donc, il couvre un éventail de différentes thérapies, puisque le titre lui-même est au pluriel, de psychothérapie. Est-ce que vous parlez des méthodes, est-ce que vous parlez des fondations, comment vous approchez cette discussion des psychothérapies corporelles?
Alors d'abord, j'ai pris ça comme on vient de le faire jusqu'à maintenant de manière très large, c'est-à-dire avant tout c'est une problématique.
Mm-hmm.
C'est pas une histoire de personne ou d'école, c'est le fait qu'il y a un intérêt à aborder la psyché de l'individu dans son contexte, dans son écologie. Et qu'à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui s'appelle les psychothérapies corporelles, ou ça peut être... moi, j'ai aussi proposé le terme de psychologie organismique, c'est-à-dire où la psyché fait partie de l'organisme. Et puis, ensuite, j'ai pris une histoire. Il y a une histoire qui commence avec le yoga, avec le tai chi. Ensuite, il y a toutes ces discussions philosophiques auxquelles j'ai fait référence, toute une série de discussions biologiques. Et puis après, il y a la venue de la psychothérapie.
Mm-hmm.
La moitié du livre, c'est quand même sur la psychothérapie. C'est-à-dire, il y a Freud, il y a les différentes périodes de la vie de Freud. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que dès que Freud a créé sa deuxième topic, tout d'un coup, un grand nombre de psychanalystes importants se mettent à parler de corps. Si vous pensez à Fenichel, à Grodeck, à Ferenczi, dès que la deuxième topic sort, il y a la méthode active de Ferenczi qui a influencé tout le monde, il y a Grodeck qui faisait carrément des massages profonds sur ses patients, tout en leur posant des questions sur l'aspect psychodynamique de ce qui se passait pendant les massages. Fenichel qui fait de la gymnastique et qui parle du moi moteur de Freud, parce que c'est une expression que Freud a utilisée, et montrant que ça pouvait être lié à des muscles hypertoniques, hypotoniques, la respiration, les gargouillements du ventre. Déjà en 1928, donc bien avant Reich, Fenichel en tant que psychanalyste parlait de ces phénomènes-là. Donc il y a eu un intérêt, disons, un engouement pour ce sujet, mais les gens avaient peur de s'y attaquer.
Mmh.
Et Reich est le premier, je crois, qui s'y est vraiment attaqué, bien qu'ils disent qu'ils ne faisaient plus de psychothérapie.
Mm-hmm. Mais et donc ensuite, en fait, ce que vous, la façon dont je comprends ce que vous dites, c'est que dans cette phase créatrice de la psychanalyse, la créativité amène les gens à avoir cette curiosité sur le corps,
oui,
pour mieux comprendre l'individu. Mmh. Et il y a tout un foisonnement d'idées qui bouillonnent par-ci, par-là. Mmh. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui est tellement large, tellement difficile à appréhender, qui a en fait une certaine timidité à le faire, jusqu'à ce que Reich le fasse, mais que par contre, il saute complètement le pas, puisqu'il le voit comme quelque chose qui, là, va au-delà de la psychanalyse par elle-même.
C'est bien ça.
Oui.
Alors, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que des gens comme Alexandre Lowen, pour prendre une des personnes les plus connues, qui ont fait du travail de végétothérapie avec Reich, se disent, après le travail de végétothérapie, mais j'intègre mal tout ce que j'ai vécu. Mmh. Il y a plein de choses qui sont montées, des choses absolument passionnantes, vitales, cruciales, mais j'ai besoin d'intégrer. Donc il y a eu l'idée, par exemple, certaines personnes se sont mises à faire Reich, puis de la psychanalyse. Mmh. Ou Gerda Moissen, dans les années 70, quand elle finissait les formations auxquelles je participais, elle nous disait maintenant aller faire une analyse jungienne ou freudienne ou lacanienne, mais quelque chose pour intégrer tout ce qui est monté pendant ces années de travail. Donc il y a eu cette idée qu'on peut pas juste ouvrir le corps et voir ce qui vient. Mmh. Alors évidemment la question s'est posée de comment créer des formes de psychothérapie qui coordonnent une approche de psychothérapie et une approche de mise à jour de l'inconscient, si vous voulez, par les techniques corporelles de Reich. Et à ce moment-là, il y a toute une série d'écoles qui se sont mises en place dans les années 70, 80, qui ont cherché à trouver des solutions techniques, parce qu'effectivement, on n'avait pas de bonne théorie là-dessus, on n'a toujours pas d'ailleurs, à ma connaissance, personne n'en a. On n'avait pas de bonne théorie, on n'avait pas encore découvert les techniques qui permettait de faire ça de manière cohérente. Alors au début, on a fait Gestalt plus technique corporelle, ou psychanalyse plus technique corporelle, ou Jung plus technique corporelle. Le problème, c'est que ces psychologies sont relativement dépassées en termes de où on est la psychologie en 2010, disons. Mm-hmm. Et c'est des psychologies qui sont pas assez fines pour vraiment appréhender la dimension psychocorporelle ou le fait que la psyché fasse partie de l'organisme. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de gens essayent d'utiliser les dernières découvertes de la psychologie pour trouver une façon d'à la fois intégrer l'apport des psychothérapies et l'apport du travail sur le corps de type reichien, ou même d'autres techniques comme celle d'Elsa Gindler ou de Feldenkrais ou de toute une série de gens, ou même du yoga et du tai chi. Et comment faire en sorte que toutes ces pièces du puzzle puissent être intégrées à l'intérieur d'une approche, à l'intérieur d'une théorie. Et ça, c'est un petit peu où on est aujourd'hui, la psychothérapie corporelle, qui est toujours en train de se chercher.
Oui.
Mais on voit qu'on est assez loin du cliché, disons, Baba Cool Reichien des années 70, dans notre façon de poser les questions.
Mais donc on est en train de franchir un seuil, mais qui est une question de comment intégrer à la fois au niveau théorique et au niveau de méthode, au niveau des approches. Donc comment vous voyez cette question? Quel est votre, ayant réfléchi à cette question, comment vous voyez les choses?
Alors, disons, Reich était assez rousseauiste, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire il croyait au bon sauvage. Il croyait que l'homme est né parfait et qu'il est perverti par les névroses imposées par la société. Il y avait, comme vous savez, dans les milieux communistes, le mot aliénation qui flottait un peu partout dans les années 30. Après la guerre, il y a eu des gens comme Sartre, etc., qui mettaient fortement en cause l'aliénation, mais avec une grande différence, c'est qu'il disait carrément que l'univers n'était pas parfait. que par exemple notre vie n'avait pas forcément un sens, que l'être humain n'est pas forcément cohérent. Même aujourd'hui, on voit beaucoup de thérapeutes qui disent le but de la thérapie, c'est de donner un sens, c'est de trouver le sens qui est le vôtre. Et il y a une autre optique qui est la mienne, qui est plus proche, disons, d'un Sartre, ce qui est de dire, c'est on n'a pas, il n'y a pas de sens en tout cas. Alors comment on vit avec ça? De même, au niveau de la structure du corps, il y a eu toutes ces théories qui supposaient que telle forme du corps correspondait à telle forme de la psyché, pour caricaturer que si on est bossu, on a un esprit bossu. Et que donc, si on pouvait redonner une harmonie au corps, par exemple, avec des méthodes comme le Rolfing, qui restructure tous les muscles, qui règle tout l'empilement, la colonne vertébrale et tout ça, vous allez vous trouver en âme harmonique. C'est ce mythe, disons, qui me semble pas marcher ou pas suffisant. Moi, je suis parti sur une idée plus proche des biologies, de la biologie contemporaine. C'est qu'on a beaucoup de sous-systèmes dans notre organisme. Le cœur, les muscles, la respiration, le cerveau, différentes formes de conscience et pensée, différentes formes d'inconscient, qui toutes ont un passé qui puise dans l'histoire de l'évolution, qui n'est toujours pas terminée, et que donc il n'y a pas de coordination réellement profonde entre tous ces systèmes. C'est une sorte de... Les Américains actuellement, ils parlent beaucoup de messy construction, d'architecture un petit peu... Imaginez que vous prenez un disque dur d'un Apple, le système Windows, un écran d'un autre système encore, et que vous essayez de faire une machine avec ça, vous avez une bonne image de l'être humain. Et donc, les êtres humains sont, comme vous savez, extrêmement variés et incapables d'atteindre ce qui est proposé par des religions, des sectes ou même des psychothérapies qui proposent un modèle unique pour tous les êtres humains. Par exemple, chez Reich, tout le monde qui n'avait pas l'orgasme était forcément malade. Y a des gens sans orgasme qui sont pas malades, il y a des gens avec orgasme qui sont malades. C'est pas très contesté, je crois, aujourd'hui, de dire des choses comme ça. Donc, comment travailler avec le fait que nous sommes... Vous voyez, si je dois dire, parce que ça, c'est la langue française qui est quand même catholique quelque part, si je dois dire, vous devez admettre que vous n'êtes pas parfait.
C'est un piège de langage.
C'est un piège de langage.
Parce que d'abord, simplement sur la façon dont vous le dites, c'est que vous, il y a une implicite idée que la perfection est possible ou qu'elle a même une valeur quelconque là-dessus. Or, dans un monde où on parle d'évolution et de messy construction, il n'y a pas de perfection puisque c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et il y a une adéquation moment par moment.
Voilà. Donc, comment créer un modèle théorique qui à la fois rend toute vision de la perfection impossible et n'utilise pas ce langage qui est quelque part qui inclut toute une idéologie du passé. C'est-à-dire on peut être émerveillé, par exemple des gens qui s'aiment. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un d'imparfait? À ce moment-là, on lui fait une charité. Ou est-ce que entre gens tels qu'on est, on peut s'aimer? C'est une formulation assez différente en termes de position humaniste, disons. Il s'agit de créer des méthodes et des théories qui ne présupposent pas comme but une forme de perfection. Mais un mode de fonctionnement qui est pertinent par rapport à qui on est.
Mais donc, en fait, c'est quelque chose qui est basé sur la réalité, d'observation de ce que sont les gens, plutôt que sur un concept qui existerait a priori, de ce que les gens auraient été à un point mythique ou de ce que les gens ont été conçus pour.
Voilà, c'est exactement ça. À la limite, je dirais que, bon, mais ça c'est parce que je suis assez intellectuel, j'invente une théorie pour chaque patient. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il existe actuellement, au jour d'aujourd'hui, comme on dit en Suisse, une théorie qui puisse expliquer comment un être humain devrait se comporter ou pas se comporter. On sait qu'il y a des choses qu'il faut faire ou pas faire, ça c'est des normes sociales ou morales, mais il n'y a pas une théorie qui permet d'expliquer vers quel état on devrait naviguer. Il y a un savoir pratique qui dit, tiens, avec cette personne-là, j'ai l'impression que ces concepts sont pertinents pour cette personne-là, pour ce cas-là. Et donc, je vais citer, par exemple, des auteurs ou des modèles. Je dis, bon, nous, les psychologues, nous savons que ceci et cela. Je dis des choses comme cela à mon patient. Et puis, quelque part, je cite des problématiques qu'il a évoquées, lui, et qui ont déjà été mises en forme par un certain savoir. Puis le prochain patient, l'heure après, il a une toute autre problématique qui me fait puiser dans d'autres auteurs, dans d'autres théories. Et donc, pour chaque patient, je vais, dans un sens, construire une théorie différente qui est quand même en lien avec ce qu'on sait aujourd'hui.
Oui, oui. Mais donc, en fait, c'est une espèce de, disons que l'hypothèse fondamentale, c'est que les gens ne viennent pas d'un même modèle, mais qu'il y a une espèce de typologie, un vaste éventail de problématiques qui ne sont pas totalement impossible à assimiler. Il y a quand même des similarités entre personnes et que il y a des expériences, des approches, des narratifs qui peuvent permettre d'aider. Donc c'est une transmission d'expérience. Ce que vous faites, c'est que vous voyez quand vous connaissez, vous commencez à connaître un patient, vous voyez à quel point ça. Donc c'est un peu un matchmaker, comme vous avez telle approche, ça pourrait vous intéresser et vous amener à aller plus loin.
Voilà. C'est-à-dire, moi j'ai une formation de base en psychothérapie corporelle, disons néo-reichienne en gros, et je sais faire ce travail-là. Et de temps à autre, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me donne la possibilité de faire ce travail-là. Mais la plupart des gens que je vois, c'est des gens du quartier. Ils viennent chez moi parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu mon site sur Internet, ils habitent à deux rues de là ou à trois maisons de là, et puis ils disent, je veux faire de la psychothérapie parce qu'il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie. Alors, dans l'interview, en général, je commence avec un interview où je dis, bon, voilà, j'ai une table de massage, j'ai un matelas sur lequel on peut faire de la relaxation, on peut aussi rester là sur les deux chaises et discuter, il y a de l'espace pour faire du mouvement, mais en général, avec une seule personne, je fais jamais tout ça. Et il y a des gens avec qui je vais que parler, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est parler, ils s'en foutent de la psychothérapie corporelle, ils s'en foutent du corps. Il y a même des gens, quand je leur propose, mais est-ce que vous ne croyez pas que vous aurez besoin de relaxation plutôt que de prendre un anti-anxiolytique, ils me disent non, je viens pour parler avec vous. Alors avec eux, je parle. Et en fait, donc on adapte aussi la méthode aux besoins de la personne. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui dit, si vous venez chez moi, voilà le moulin à café à travers lequel vous devrez passer pour devenir quelqu'un de buvable.
Oui, oui.
J'ai pas ce genre d'approche, disons.
Mais je suppose de toute façon que quand vous parlez avec quelqu'un, avec l'approche que vous avez de ce qu'est être humain, et même sans faire de ce qu'on appellerait typiquement de la psychothérapie corporelle, c'est en fait, il y a un éclairage qui vient de votre approche psychothérapie corporelle, simplement même quand vous parlez.
Ah oui, alors moi j'utilise, même quand je fais que du verbal, même quand je fais que du verbal, je tiens toujours compte de la respiration des gens, de comment ils bougent. Surtout que j'ai quand même toute une spécialisation en communication non verbale. J'ai travaillé longtemps dans des laboratoires à Genève, en psychiatrie genevoise, sur l'analyse des mimiques du visage, des gestes, des postures. Et donc j'ai une connaissance en fait très détaillée sur ces choses-là. Donc rien qu'en parlant, ça m'arrive de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que votre visage fait ceci ou fait cela? Et puis on parle de ça, parfois je tends un miroir pour qu'ils prennent conscience que, par exemple, il y a de la colère sur leur visage, alors qu'eux, ils croyaient être parfaitement calmes. Alors j'utilise, même dans des approches verbales, des indices corporels où je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous avez gargouillé là. À quoi votre ventre a fait des drôles de bruits? À quoi vous pensiez à ce moment-là? Parce que dans l'école de garde à Boissel où j'étais formé, on mettait des stéthoscopes sur les gens pour entendre les gargouillis du ventre, avec l'idée que plus il y a de gargouillis, plus il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et de se détendre. Donc, même en analysant un rêve, je peux dire, tiens, cette association de votre rêve a déclenché un gargouillis, à quoi vous pensiez juste là? Ça m'arrive d'utiliser plein de choses comme ça, de techniques de ce type, même quand je fais du travail corporel. Verbal, excusez-moi.
Verbal, oui. Donc on en arrive à une définition beaucoup, beaucoup plus large des psychothérapies corporelles.
C'est le but.
Exactement. Et en fait, comme vous dites, quand je vous ai posé la question sur votre vue, et vous parliez de l'aspect rousseauiste et de cet aspect plus existentiel, c'est en fait aussi de voir que de nous, en tant que praticien, quand on travaille avec un client, on n'est pas simplement technicien, on n'est pas simplement en train d'appliquer telle et telle méthode, mais qu'il y a toute une conception de l'être humain qui entre en place. Mmh. Et donc ce travail se fait à beaucoup de niveaux.
Oui. Ben là, j'ai rien rajouté à ce que vous venez de dire.
Donc ça doit vouloir dire qu'il est temps d'arrêter.
D'accord.
Très bien, merci Michel.